Panorama Économie.
Bienvenue à tous dans la rétrospective de l'actualité économique. La reddition des comptes du lundi dernier à l'Assemblée nationale fait la une de l'édition de cet avant-midi. Députés de la majorité comme de l'opposition ont dénoncé plusieurs faiblesses dans la gestion de la chose publique. Une année de plus pour le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, la Banque mondiale qui annonce ses prolongements précise que le PASA utilisera jusque-là le reste du budget du mandat précédent. Pour la première fois, la RDC reçoit les membres de l'Association des chemins de fer de l'Afrique australe. Depuis les mercredis derniers à Lubumbashi, les pays de la SADC réfléchissent sur la performance des chemins de fer dans leur secteur. Et je ne suis pas seule dans ces studios. Nous recevons pour vous Al Kitenge. Il est stratège et analyste économique. Il est aussi directeur général de Synergy Group, une société de consulting. Bonjour Monsieur Kitenge.
Bonjour cher ami.
Et bonjour à tous nos auditeurs.
Panorama économique, le dossier.
Je le disais au sommaire, l'exécution du budget de l'État, exercice 2014 au centre du débat du lundi dernier à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux, majorité comme opposition, ont fait état de plusieurs faiblesses dans la gestion de la chose publique. Ils ont parlé notamment de la faible mobilisation des recettes, des dépassements de la ligne budgétaire, des contradictions dans les chiffres. Bref, pour la plupart des débatteurs, les fonds et la forme de ces documents posent problème. Ils l'ont fait savoir au ministre des Finances, Henri Yaffe, venu présenter ces textes à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'abord les députés Noël Boutakile de la MP.
On dit que l'Assemblée nationale, qui a été autorisée pour l'achat des papiers, des stylos pour la petite bureaucratie, a été autorisée à utiliser 140 millions de francs congolais. Dans la reddition des comptes, on dit que l'Assemblée nationale a utilisé 1,5 milliard. C'est inacceptable. Alors, ces écritures-là, non seulement elles doivent être réécrites, mais également, il faut que nous puissions arriver à tirer les conséquences. Parce que chaque écriture dans la reddition des comptes est soutenue par une pièce justificative. Ici, on ne projette pas, mais on constate comment on a consommé. Et les dépassements, ça s'appelle détournement des deniers publics. Donc partout il y a dépassement, nous devons arrêter ceux qui ont détourné les deniers publics pour que s'il n'y a pas de justificatif valable, certifié par la Cour des comptes, le chemin de la prison doit être donc légitime pour tous ces gens. Mais dans les cafouillages tels que nous procédons là, il ne faut rien attendre. On a biaisé la procédure.
Les députés de l'opposition, eux, estiment que face à ce tableau, il faut des sanctions. Parmi eux, Emery Okundji.
Les rapports de la Cour des comptes parlent de réalisation des recettes non prévues, non et faible exécution de certaines dépenses. Exécution des dépenses non prévues, en particulier des projets d'investissement. Exécution des dépenses en dépassement des crédits. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Que devons-nous faire, nous, députés nationaux, pour aider les gouvernements à arrêter avec cet état des choses qui est devenu récurrent? Ça revient tout le temps. Mais vous savez, la loi de la majorité jouant, nous n'arrivons pas à sanctionner. Mais lorsque l'on a le souci d'améliorer des choses, d'avoir la bonne gouvernance, je crois que le gouvernement devrait tirer toutes les leçons pour changer de manière radicale cet état des choses.
Restons toujours dans le même dossier pour parler de cette loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2014 qui a été reçue ce jeudi pour examen approfondi. La Chambre basse a reçu cette loi après la réplique du ministre des Finances, Henri Yaffe, sur les observations et questions des députés nationaux. Notez que dans leurs interventions, les élus avaient fait état de plusieurs failles dans la gestion des finances, notamment de problèmes dans l'exécution des recettes comme des dépenses, dans l'absence certains rapports devront accompagner la loi, les dépassements des dépenses exécutées et la réalisation des dépenses non prévues. Un extrait de la réponse du ministre Henri Yap.
S'il n'a pas été facile de changer les méthodes de travail et surtout d'adapter et les hommes et les techniques aux nouvelles exigences de la loi sur les finances publiques, des progrès ont tout de même été réalisés dans l'application progressive des dispositions de cette loi. Je pourrais ainsi cité comme avancée significative, notamment la présentation régulière depuis 2011 au Parlement de la loi portant reddition de comptes de l'exercice clos ce, avant la loi des finances. Les efforts déployés tant pour présenter le projet de loi de reddition de comptes dans les mêmes formes que la loi des finances correspondantes, que pour conformer les documents annexés au projet de loi de reddition de comptes aux prescrits des articles 81 et 82, l'accroissement, si faible soit-il depuis 2011, du nombre des comptables publics transmettant leurs comptes de l'exercice, l'assainissement progressif des budgets annexes et des comptes spéciaux pour arriver à ne retenir d'ici 3 ans que ceux répondant à la définition et aux critères de la LOFIP, l'affectation, conformément à l'article 218 de la LOFIP, des recettes au profit des provinces au fur et à mesure du transfert effectif des compétences et des responsabilités en matière de dépenses.
Sachez également que la Chambre basse a décidé de la mise sur pied d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur le problème de fonds soulevé par les députés nationaux dans cette reddition des comptes, une démarche jugée inopportune par Henri Thomas Lokondo. Prenant la parole par motion, l'élu des Mbandaka pense que cela va installer un examen à double vitesse de cette loi. Pour lui, la commission permanente ECOFIN, à qui la loi a été confiée, doit faire son travail avec sérénité. Un dossier signé Mimi Ngumba Mulongo. Messieurs Kitenge, je reviens à vous. La loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2014 a été finalement reçue, alors qu'on sait que les élus avaient fait état de plusieurs failles dans la gestion des finances. Vous ne pensez pas qu'il serait temps que les députés deviennent un peu plus sévères?
D'abord, sincère félicitations à Henri Ave, le ministre des Finances, pour son premier exercice de ce genre. Et bien entendu, cela devait passer pour des raisons aussi bien techniques que politiques. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faut dire. Vous savez, une nation moderne ne se gère pas avec un système de contrôle qualité de bout de chaîne. Ça veut dire qu'en fait, on laisse faire les choses pendant l'année, on vient constater les dégâts à la fin. Ça n'aide pas parce que ça ne vous permet pas de corriger ce qui s'est passé. La seule chose que ça vous donne comme opportunité, c'est de corriger pour l'avenir. Et très malheureusement, malgré la récurrence de la présentation de la loi de révision des comptes, nous ne voyons pas de progrès. Mais j'ai envie de dire quelque chose. La gouvernance moderne aujourd'hui impose que nous ayons plutôt un processus d'assurance qualité. Cela induit que les informations soient saisies en temps réel, interprétées en temps réel, à des périodes récurrentes dans l'année, généralement c'est le trimestre, que l'État soit en mesure de donner les états des lieux de l'avancement d'exécution des budgets. C'est comme ça que tous les pays du monde agissent. Ça veut dire qu'en fait, si vous, au premier trimestre, vous constatez qu'il y a des déviations, vous les corrigez pour qu'au premier semestre, tout se passe mieux.
Et s'il y a encore des choses... Et maintenant, qui doit aller vers l'autre? Est-ce le gouvernement ou bien c'est les députés qui doivent aller demander des comptes?
D'abord, dans tous les pays du monde, de par la loi, c'est l'obligation du gouvernement de présenter au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre et au quatrième trimestre l'état d'avancement de l'exécution du budget. Il y a donc des aménagements techniques du cadre légal qu'il faut absolument faire. Deuxième chose, ce qui permet la possibilité de donner des rapports à des temps aussi serré que ce que j'ai indiqué ici, ce sont les technologies. Il est important de savoir qu'on ne fait pas ce genre de choses à la main et sur papier comme on continue à le faire dans notre pays. Il est important qu'on se dote de la technologie moderne pour que le reporting vis-à-vis du citoyen, vis-à-vis du Parlement, soit en temps réel. Et aujourd'hui, il y a des logiciels de gestion publique qui le permettent. Et moi, j'en appelle aujourd'hui justement à l'État congolais à s'approprier les technologies pour gérer de manière moderne et sérieuse la République.
Alors, au début de cette année, nous en avons parlé sur nos antennes, l'Observatoire des dépenses publiques ODEP avait publié un rapport et dans ce rapport, il recommandait, je cite, au Parlement, en sa qualité d'autorité budgétaire, premier destinataire des observations de la Cour des comptes, conformément aux prescrits des articles 100 et 173 de la Constitution, ainsi que 123 et 124 de la LOFIP, à s'impliquer davantage pour la suite à donner au rapport de la Cour des comptes, afin que pour chaque exercice, le budget du pouvoir central, son exécution et règlement définitif à travers la loi portant reddition des comptes se conforme à ces textes.
Nous avons un problème sérieux, c'est un problème de culture nationale. En réalité, on a l'impression que les questions de gestion du pays sont des questions toutes politiques. Non, c'est des questions citoyennes, c'est des questions de communauté, c'est des questions de société. Il est important que nous devenions de plus en plus sévères envers notre classe politique. Parce qu'il n'est pas acceptable que des gens intelligents, et nous sommes convaincus qu'ils le sont, répètent les mêmes erreurs et les mêmes fautes de manière régulière. Il est important que pour le respect et pour le sens de redevabilité vis-à-vis des citoyens, les opérateurs politiques tirent les leçons de leurs erreurs et de leurs fautes pour qu'ils les corrigent. Et je pense simplement que le peuple congolais a le droit d'être informé en temps réel, et je salue là l'initiative de l'Observatoire, justement, que je conseille d'ailleurs de pouvoir multiplier la sensibilisation pour que les gens s'impliquent. La République n'est pas une question des politiciens, la République est une question des citoyens. Mmh.
Et tout à l'heure, vous l'avez suivi, un député qui a parlé des dépassements des dépenses exécutées. On a fait mention d'un chiffre là qui était au-delà. Et il y a aussi la réalisation des dépenses non prévues.
Vous savez, lorsque vous avez un dépassement de 5%, 10%, personne ne s'en plaint. Mais quand vous êtes à 10 fois plus, ça impose que quelqu'un se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait.
120%, là c'est quand même trop.
Ça demande que quelqu'un s'implique et on sache qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous savez, en matière d'affectation des fonds de l'État, lorsque vous affectez de l'argent à quelque chose qui n'était pas prévu sans autorisation préalablement obtenue, ça s'appelle du détournement. Et je pense qu'il est important que les gens se rendent compte de la gravité des actes qu'ils posent. Et aujourd'hui, très malheureusement, on a cette arrogance que l'on constate au niveau de la classe politique à ne pas considérer les écarts comme étant des besoins de redevabilité. Et ceci dit, mine de rien, nous ne disposons même pas des mécanismes pour être en mesure de les sanctionner. Et je pense que l'État doit se rééquilibrer. Les pouvoirs doivent être répartis entre à la fois ceux qui choisissent comme métier et profession la politique et les citoyens qui contribuent pour que les politiciens détiennent les moyens pour être en mesure de les dispenser sur les besoins de tout le monde.
On va évoluer. Le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole passe en sigle, prolongé d'une année. Mais ce projet va utiliser jusque-là le reste du budget du premier mandat, soit près de 12%. Annonce faite le jeudi dernier à Kinshasa par la Banque mondiale au cours d'un atelier d'évaluation de ce projet. Les participants à cet atelier sont tous unanimes que le PASA a eu un impact positif dans l'ancienne province de l'Équateur. Après tractation, le projet PARSA obtient une extension d'une année. Ainsi, au lieu de se terminer à la fin de cette année 2015, il ira jusqu'au 31 janvier 2017. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Amadou Moustapha Ndiaye, parle des résultats enregistrés pendant 5 ans.
De manière globale, le projet avance dans le sens de l'objectif de développement du projet qui est celui d'améliorer la productivité agricole et les revenus des producteurs au niveau de la production animale et végétale dans la zone ciblée. Avec le recrutement des opérateurs d'appui conseil depuis 2 ans, plus de 104 000 ménages ont été atteints. Il y a eu beaucoup et aussi des unions de ces organisations de producteurs.
De son côté, le coordonnateur du projet PARSA parle de défis à relever pendant cette extension d'une année, Alfred Libangula.
Le premier défi d'abord sont les ressources financières. C'est un projet de 120 millions de dollars. Nous avons un taux de décaissement actuellement de 87,76%. Donc avec 87%, si vous faites la différence, vous voyez, il reste plus beaucoup d'argent. Or, il y a du travail à faire sur les routes. Il y a aussi de l'accompagnement au niveau des organisations. Il y a également à consolider tout ce que nous avons fait. Donc il y aura des arbitrages assez importants à faire.
Et le secrétaire général à l'agriculture, Hubert Aliri-Sassi, qui se dit satisfait, revient sur la part du gouvernement congolais.
La part du gouvernement congolais, nous travaillons avec un fonds que nous avons reçu de la Banque mondiale. Comment la population congolaise va profiter de tout ça? Nous étions partis dans une province, en 2010, il n'y avait pratiquement pas grand-chose dans la province de l'Équateur, au point de vue production. Parce qu'il n'y avait plus de routes, il n'y avait plus de semences, il n'y avait plus une grande production, il y avait des auto-consommation. Aujourd'hui, dans tous ces ports, là, nous avons construit des marchés et tout ça, des entrepôts.
Notez enfin que le plan d'action de ce second mandat sera bien défini dans les prochains jours.
Je pense qu'il est important de se rendre compte que vous ne pouvez pas mettre le programme de votre propre alimentation nationale entre les mains des partenaires. Je crois que le PARSA, comme d'autres programmes d'appui à l'agriculture, devait être des programmes annexes. Il est important que la République ait sa propre stratégie, son propre plan et éventuellement des budgets suffisamment importants au vu et au regard de l'importance du secteur de l'agriculture dans notre
économie. Mais il y a déjà un plan de relance ?
Oui, mais regardez les volumes d'argent dont on dispose pour être en mesure de travailler et comparer par rapport à ce que les partenaires mettent. C'est pour ça d'ailleurs que nous accordons énormément d'importance à ce que les partenaires font. Je crois qu'il faudrait que nous ayons la capacité de regarder droit dans notre chemin pour être en mesure de déterminer de quelle manière nous voulons vivre ensemble. Je vais vous donner une illustration. Lorsque vous regardez les quantités d'argent que nous dépensons pour importer la nourriture, on aurait pu produire localement avec la moitié.
Oui.
Et c'est valable pour le riz, c'est valable pour
le maïs,
c'est valable pour beaucoup d'autres cas. Je donne, pour parler du maïs, un cas entre la Zambie et le Katanga. Nous avons exactement le même climat, mais pendant des années et des années, la République démocratique du Congo importe le maïs de la Zambie. Au point que quand la Zambie le désire, elle arrête les approvisionnements et tout le monde sait très bien toute la mafia qui s'ensuit. Et je crois qu'il y a là un objectif important à atteindre, celui de nous doter d'un plan qui nous amènerait très rapidement à l'autosuffisance alimentaire. Souvenez-vous, le Sénégal à l'époque a décidé de le faire en 3 ans et ils ont quasiment atteint les résultats. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes capables de faire. Ça demande en fait, en réalité, qu'on convertisse les efforts publics et privés vers une canalisation des choix stratégiques. Et ça, c'est quelque chose que seul le gouvernement peut faire en canalisant les efforts et les moyens, y compris des privés, vers des objectifs très clairs avec des incitatifs fiscaux qui puissent permettre aux gens de trouver des raisons de ne pas faire du commerce, mais de faire de la production, de la transformation locale.
Mais il ne faut pas négliger le moyen du transport.
C'est pour ça que je dis, il est mieux de transporter des produits qui ont une valeur ajoutée élevée plutôt que transporter des produits sans valeur financière réelle. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous allez sur la route du Bandundu, vous trouvez beaucoup de camions en panne et très peu de camions en train de bouger. Et regardez ce qu'il y a dans les camions, il y a du charbon. Et vous regardez la valeur de la marchandise qui est en train d'être transportée, vous comprenez pourquoi c'est transporté par des véhicules qui vont naturellement tomber en panne.
En parlant du transport, sachez que la Société nationale des chemins de fer du Congo a tenu depuis le mardi dernier une réunion du comité exécutif de l'Association des chemins de fer de l'Afrique australe. C'est la première fois que la RDC abrite cette réunion. Elle a pour objectif d'accroître la performance des chemins de fer dans le pays membre de la communauté économique des États de l'Afrique australe, SADC, en vue d'améliorer les conditions de vie de population. 10 pays membres de la SADC y prennent part. Nelly Kabina.
Ce sont les représentants des sociétés de chemin de fer de l'Afrique du Sud, du Malawi, de Zimbabwe, Botswana, de la Namibie, de la Zambie, de l'Angola et de la Tanzanie, du Swaziland et de la République démocratique du Congo qui vont étudier les nouvelles résolutions afin d'accroître la performance des chemins de fer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. En effet, la SNCC, pour ne citer qu'elle, a vu sa présence sur le marché de transport diminuer. En 1980, par exemple, le chemin de fer transportait 80% des produits par rapport au transport de surface telle la route. Et pourtant, la situation a été inversée à 10, d'où cette réunion de la SARA afin d'inverser cette tendance. Pour sa part, le directeur général de la SNCC a brossé les difficultés que vit cette société tout en reconnaissant beaucoup d'améliorations. C'est notamment l'acquisition des 18 locomotives sur les 38 allouées par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Avec la SARA, la SNCC pourrait voir, souligne-t-il, la performance du matériel roulant, l'accroissement de la fluidité du trafic, mais aussi la sécurisation des voies qui sont en cours de réalisation s'améliorer davantage. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
Améliorer les conditions de vie des populations, c'est l'objectif assigné par la réunion du comité exécutif de l'Association des chemins de fer de l'Afrique australe. Vous pensez qu'ils vont y arriver?
D'abord, il faut savoir que tous les pays du monde, surtout lorsqu'ils ont une étendue assez élevée en termes de superficie, ont l'obligation d'avoir une connectivité. Et parmi les voies les moins chères et les plus stables et les plus solides, c'est la voie ferrée. Il est important qu'un pays sache que sans une voie ferrée viable et fiable, il est impossible de pouvoir se développer. Maintenant, il faut regarder ça dans le contexte. Les autres pays dont on parle ici veulent être sûrs que nous avons une certaine connectivité. Ce n'est pas qu'une connectivité physique, c'est une connectivité du commerce et des échanges.
Oui.
Et c'est extrêmement important. Maintenant, il faut regarder la position de la République démocratique du Congo dans tout ça. Nous sommes une espèce de hub qui permet de relier les uns aux autres. Et il est donc important, et tout le monde le sait, qu'avec notre population et notre territoire, nous sommes un marché potentiel. Là-dessus, nous avons donc l'obligation de pouvoir savoir que le développement de notre voie ferrée n'est pas qu'une question de la République démocratique du Congo, mais ça peut être un problème si nous ne sommes pas capables de le mettre au niveau des autres qui attendent énormément de nous. Mais une deuxième chose, c'est un une opportunité pour nous de pouvoir jouer notre rôle. Vous savez, le monde entier a ce qu'on appelle l'écartement standard du rail, du chemin de fer. C'est dans ce genre de conversation et d'échange avec les autres partenaires que nous devons être en mesure de jouer notre rôle. Nous ne pouvons pas continuer à penser qu'on peut circuler à du 40 km à l'heure et être aussi compétitif que les pays européens. C'est pour ça que dans notre pays, les biens qui viennent de l'étranger coûtent moins cher parce que le transport international est moins cher que le transport local. Donc il est important qu'on se rende compte qu'il faudrait qu'on aille vers les écartements standards pour être en mesure d'acquérir des équipements qui circulent à grande vitesse. Et ça, c'est un débat qu'on ne peut pas éviter, et ce serait très bien que la République démocratique du Congo, de par notre positionnement de hub stratégique aussi bien dans la région que sur le continent, de pouvoir pousser les pays africains à quitter la paresse de vouloir toujours rester dans les anciennes configurations afin d'éviter de faire des investissements intensifs. Parce que tout compte fait, le développement de la voie ferrée, ça demande quand même beaucoup de milliards de dollars, et il ne faut pas avoir peur d'aller vers les grands projets. C'est seulement en faisant les grandes choses qu'on peut se développer rapidement.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en bref. D'abord, la compagnie aérienne Congo Airways qui a organisé le mardi dernier son premier vol commercial à destination de Lubumbashi. Pour ce premier vol, 159 passagers ont effectué les voyages de Lubumbashi. Le directeur général adjoint de cette entreprise affirme que très prochainement, d'autres lignes seront ouvertes pour désenclaver la RDC, surtout sur le plan économique. En attendant, Congo Airways prévoit les vols chaque jour de la semaine sur Lubumbashi. Les travaux de réhabilitation du tronçon routier Nyanya-Isiro, long de plus de 200 km, n'ont toujours pas démarré en dépit de la réception par l'office de route des 100 000 litres de gazole. Entre-temps, la route continue à se détériorer en faveur de l'enclavement de la nouvelle province du Haut-Touélé. Une forte croissance enregistrée par la RDC ces 5 dernières années, en dépit de ses performances économiques, le pays reste encore catégorisé par les États fragiles. Sur le marché des matières premières, on observe encore une hausse des prix de cuivre et de l'or, tandis que la tendance s'est inversée sur le marché du pétrole. C'était l'essentiel de la Troïka stratégique du lundi dernier. À Zongo, la vie devient difficile avec l'arrivée massive des réfugiés centrafricains qui fuient l'insécurité à Bangui. Chaque jour, on enregistre de nouveaux arrivants. L'essentiel que consomme la population de Zongo vient de Bangui, la capitale centrafricaine, ce qui a provoqué la flambée des prix de tout le produit sur le marché. Impossible pour les opérateurs économiques de Zongo de faire leurs transactions bancaires dans la capitale centrafricaine, la ville de Zongo étant dépourvue de banques commerciales. Alors, monsieur Kitenge, un commentaire. La compagnie aérienne Congo Airways a organisé son premier vol commercial.
Je retiens que c'est une très bonne chose que finalement nous ayons dans les airs des avions aux couleurs de la République. C'est une fierté, c'est cosmétique. Après, il faut aller sur le fond. Ça sous-entend qu'en fait, il faudrait qu'on ait un plan de déploiement sur toute l'étendue de la République, avec tout ce que ça demande comme budget et tout ce que ça implique comme activité. Mais cela...
Et à moindre coût.
Oui. À des coûts réels. Oui. Il ne faut pas être en dessous du coût, il ne faut pas être trop cher non plus, il faut aller à des coûts commerciaux. Oui. Mais la chose la plus importante, c'est la visibilité. À partir du moment où on ne sait pas où on sera dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans, il est difficile de pouvoir anticiper et d'aider les gens à anticiper. Je donne une première relation, les aéroports. Si Congo Airways ne dit pas exactement quelles sont les prochaines étapes, la RVA ne va pas se préparer aux activités qui vont venir. Et au moment où la compagnie aérienne va décider de voler, la RVA, si elle n'a pas été en coordination avec elle, n'aura pas été en mesure de donner des services. Deuxième chose, les activités économiques, ça veut dire les passagers et le fret. Oui. Il est bon de donner de la visibilité pour que les gens commencent à se préparer en disant dans 3 mois, nous aurons une desserte d'avion ici, et donc si nous avons de la marchandise, on peut la préparer pour qu'elle puisse être en mesure de bouger. Mmh. Et c'est ce qui manque à ce pays, la prévision, la prévisibilité. Il est important qu'on soit en mesure de de donner de l'information. Parce que de l'information vient les initiatives et la projection économique.
Pour ne pas tomber dans les difficultés des lacs
Pour ne pas tomber dans les difficultés des lacs, deux choses. La première, le plus indiscipliné a toujours été le politique et les gouvernements. Ils payent SN Bruxelles ou Sabena à l'époque, ils ne payent pas LAC, LAC est tombé en faillite. Mmh. Ils téléphonent sur TéléSN et ils payent avant et ils payent plus que nécessaire. Et quand ils téléphonent en utilisant l'OCPT à l'époque, ils ne payent pas, bien entendu, ça finit par tomber en faillite. Et je pense qu'il est important qu'ils se rendent compte qu'il s'agit là d'une entreprise commerciale. Et il est bon que le gouvernement charrie son business sur ces entreprises, mais qu'il paye les factures avant, comme exactement il paye dans les entreprises commerciales. La soutenabilité et la durabilité de cette entreprise tient du prestige national et bien entendu du sérieux collectif. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs tout le temps en espérant que nous allons avoir des résultats différents.
On a également parlé de l'essentiel de la troïka stratégique où il était question d'une forte croissance enregistrée par la RDC et malgré cela, le pays reste encore catégorisé par les États fragiles.
Nous sommes un pays, nous sommes un État fragile, et ce n'est pas un euphémisme, c'est une réalité. C'est une réalité parce que lorsque vous prenez la quantité de richesse qui est produite sur l'étendue de la République, et vous la divisez par le nombre de personnes, et vous la divisez par le territoire, c'est largement insignifiant par rapport à ce dont on a besoin. Nous sommes donc un pays extrêmement pauvre, il ne faut pas avoir peur des mots. Et ceci dit, ça met quand même les dirigeants, malgré leur dextérité, dans des conditions très difficiles. Lorsque vous prenez par exemple le défi angolais comparé au défi congolais, vous vous rendez bien compte que par tête d'habitant et par kilomètre carré de prise en charge, parce que c'est ça le défi d'un gestionnaire, le défi congolais est plus de 100 fois plus difficile que celui de l'Angola. Et donc il est important qu'on se rende compte que comme on ne peut pas rétrécir notre territoire, on ne peut pas rétrécir notre population, il est donc important, et c'est la seule voie, d'augmenter la capacité de production des richesses sur notre territoire. Et au lieu de lutter contre la pauvreté, il faut qu'on s'engage intensément dans la production des richesses.
Et on a fini par cette information sur Zongo, où la vie devient difficile avec l'arrivée massive des réfugiés centrafricains qui fuient l'insécurité à Bangui.
Et ça démontre de manière assez claire la supériorité de la force centripète par rapport à la force centrifuge.
C'est-à-dire
Toutes nos provinces ou toutes nos villes qui sont dans les périphéries sont plus tournées vers l'extérieur que vers l'intérieur. Mmh. Et il est important de leur donner une âme nationale. Mmh. Il faudrait que les institutions de la République, aussi bien du secteur privé que du secteur public, se déploie dans ces endroits où les gens se sentent seuls.
Et où les francs congolais de moins en moins.
N'existent même pas. Oui. Nous utilisons dans ces zones les monnaies des autres. Mm-hmm. Et c'est une honte. Il est important que la République donne une offre de services publics et des services privés aux citoyens de la République. Il ne faudrait pas que la moindre difficulté dans un pays voisin asphyxie nos propres frères sur notre propre terrain. À un moment donné ou à un autre, c'est ça le sens du patriotisme. Mm-hmm. Et le patriotisme, il n'est pas que pour ceux qui sont dans la capitale et qui sont à la Gombe. Le patriotisme, c'est pour tous les Congolais, où qu'ils soient.
Merci beaucoup, monsieur Alkitenge, d'avoir répondu à notre invitation.
C'est à moi de vous remercier. Je remercie les auditeurs.
Voilà qui met un terme à votre magazine Panorama économique. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à André Mongou qui a assuré la mise en onde. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon week-end à tous.